Dr Ted Rill de Brent, OT Histoire, Li. Et Théologie, Conférence 6. Symbole Copyright 2020, Dr Ted Rill de Brent. Voici le Dr Ted Rill de Brent qui enseigne l'histoire, la littérature et la théologie de l'Ancien Testament. Conférence numéro 6 sur la généalogie non égale à la chronologie, l'image de Dieu et les deux arbres du Jardin d'Éden. A aperçu du quiz entre minuit et 3h26. Cette semaine, vous travaillez sur Exodus et vous devez lire 20 chapitres ou quelque chose jusqu'aux 10 commandements. Après cela, il s'agit de chapitres sélectionnés pour que vous n'ayez pas à lire le tout. Fondamentalement, vous sautez de nombreuses descriptions du tabernacle. Il y a deux articles pour cette semaine, l'un est rédigé par un gars nommé Bruce Walk, qui est un super spécialiste des preuves archéologiques de la Palestine sous Josué. Je pense donc que vous trouverez cela intéressant. Maintenant, c'est important car il y a deux articles cette semaine, un article dont vous allez être responsable, l'autre dont je vais simplement vous demander si vous avez lu l'article de Walk. Je ne vais pas vous demander des détails sur l'article de Walk, il y a beaucoup de détails là-bas. Je vais juste vous demander de le lire. Maintenant, concernant l'article, Bloody Bridegroom, c'est celui sur lequel je veux que vous vous concentriez. Alors là-dessus, je vais vous poser des questions précises. Alors le, Bloody Bridegroom, concentrez-vous sur celui-là, l'autre vient de lire. Ensuite, il y a quelques versets à mémoriser. Je pense que les versets à mémoriser sont vraiment difficiles. Qu'est-ce que c'est, le psaume 23? Je pense que cela commence par, « Le Seigneur est mon berger », vous l'avez peut-être entendu plusieurs fois. Je veux donc que vous sachiez, « Le Seigneur est mon berger ». À propos, c'est un psaume très important et vous devriez le savoir. C'est vraiment pratique. C'est juste un très bon psaume à apprendre. Une autre chose concernant le matériel pour ce cours, nous en avons doublé maintenant. Certains d'entre vous n'ont toujours pas payé le matériel pour le cours et c'est donc 20$ maintenant. Je ne veux pas te poursuivre. Après vendredi, vous avez fini de répondre aux quiz et aux examens. Vous devez en faire votre note, sinon cela commence à s'interrompre, vous savez que vous ne pouvez pas passer les quiz et que vous ne pouvez pas passer les examens. Vous devez donc le recevoir cette semaine, ce n'est pas une option. Très bien, commençons par un mot de prière, puis nous plongerons aujourd'hui dans le livre de la Genèse et prendrons la route. Père, nous te remercions pour ta gentillesse envers nous et nous te remercions pour la beauté qui nous arrive à l'automne en Nouvelle-Angleterre. Pour le temps rafraîchissant et nous vous en remercions simplement. Nous vous remercions pour votre parole, nous vous remercions d'avoir parlé, de l'avoir fait écrire et maintenant vous nous donnez le privilège de la lire. Nous prions pour que vous puissiez nous aider pendant que nous essayons de l'interpréter afin que nous puissions le comprendre correctement. Nous prions pour qu'il nous guide vers vous pour vous glorifier et vous honorer, pour vous adorer avec plus de précision et pour apprécier votre Fils que vous avez donné en notre faveur. Alors aide-nous dans nos explorations dans ta parole aujourd'hui. Merci de pouvoir t'appeler, Père, même aujourd'hui. Au nom précieux du Christ, nous prions, Amen. B. Quel âge a la Terre? Ce n'est pas un test d'orthodoxie entre 3h27 et 4h58. Nous voulons commencer par poser la question, quel âge a la Terre, selon la Bible? Nous avons beaucoup discuté de ce sujet et de la réponse à la question, où dans la Bible est-il indiqué quel âge a la Terre? Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit exactement quel âge a la Terre. Vous devez donc vous poser quelques questions sur l'importance que vous allez en faire. Nous voulons commencer par dire, si la Bible ne dit pas spécifiquement quel âge a la Terre, faut-il faire attention à ne pas en faire un test d'orthodoxie? Maintenant, ce que j'entends par « test d'orthodoxie », c'est « allez-vous diviser les églises sur la question de l'âge de la Terre ?» Au fait, certaines églises sont-elles divisées à ce sujet? Est-ce que ce n'est pas le bon problème? Ce n'est pas la bonne question, car différentes personnes auront des opinions différentes et ce ne sont que leurs opinions, car la Bible ne nous dit pas quel âge a la Terre. Je tiens donc à dire que l'âge de la Terre ne devrait pas être un test d'orthodoxie puisqu'il n'y a pas un seul verset clair dans la Bible qui indique l'âge de la Terre. Tout n'est que conjecture. Vous pouvez avoir votre propre conjecture, vous pouvez avoir toutes les raisons que vous voulez, mais cela reste une conjecture. Vous n'avez pas de, ainsi dit le Seigneur, sur celui-ci. Vous devez donc prendre du recul et réaliser, vos propres conjectures peuvent-elles être fausses? Je dis, vos conjectures peuvent être fausses. C'est la science et la Bible entre 4h59 et 7h56. Je plaisante bien sûr, car je vous montrerai lors du prochain cours des choses où j'ai changé d'avis au fil des années. J'ai changé ma façon de penser les choses. Alors soyez prudent à ce sujet. Vous devez faire attention à ne pas introduire ou extraire la science de la Bible. Voici quelques exemples. Je pense que nous en avons mentionné certains la dernière fois. Poison, dans le psaume 140, verset 3. Le psaume 140 est magnifique. Si vous aimez les animaux, le psaume 140 est votre psaume. Psaume 140, 3 parle du venin de l'aspic sous sa langue. Maintenant, ce sont des serpents et des serpents. Lorsqu'un serpent a son aisselle vous mord, est-ce parce que le poison est sous sa langue ou est-ce dans les crocs? C'est dans les crocs. Il s'agit donc d'une description poétique, est-ce censé être considéré scientifiquement que tous les aspics ont un venin spécial sous la langue? Ce n'est pas le propos. Vous devez donc faire attention lorsque vous faites entrer ou sortir la science de la Bible. Il s'agit d'une description poétique, elle ne doit pas être considérée comme une description scientifique. Ici dans Ésaïe chapitre 11, verset 12, il parle des « quatre coins de la terre ». Encore une fois, vous ne pouvez pas dire, ils croyaient tous en une terre plate donc la Bible enseigne une terre plate. Vous vous trompez de point. Ce qu'il dit est partout sur la terre, aux quatre coins de la terre. D'ailleurs, même au XXIe siècle, on parle des quatre coins de la terre. Des gens sont venus des quatre coins du monde pour se rendre à New York pour le 11 septembre des quatre coins du monde. Tout ce que nous visons, c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous ne disons pas que la terre est plate. Il faut donc être prudent avec ça. Job 9, 6 parle des piliers de la terre. Encore une fois, ce n'est pas une description scientifique, ce n'est pas une description électromagnétique de la façon dont la Terre est équilibrée. Job ne connaît pas l'électromagnétisme lorsqu'il parle. C'est juste une façon poétique de dire que la Terre est stable, posée sur des piliers. Vous devez donc faire attention à ne pas prendre une partie de cette poésie et à insérer la science dans la Bible ou à extraire la science de la Bible. Le soleil s'arrête, nous allons devoir en parler dans Josué 10. Le problème est de comprendre ce que signifie, s'arrêter. Le mot ici peut en fait signifier, silencieux, et nous allons donc devoir en parler et j'en traiterai lorsque nous arriverons au livre de Josué. J'ai environ 3 semaines devant moi ici. Maintenant, mon point est majeur sur les majeurs, mineur sur les mineurs. L'âge de la Terre est un point mineur, ne vous concentrez pas sur cela et vérifiez votre attitude. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, êtes-vous capable de gérer les désaccords? C'est vraiment important. Comment traitez-vous les gens lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux sur certains de ces points théologiques? Dès la généalogie n'est pas la chronologie entre 7h57 et 10h. C'est un autre point important, la généalogie. Comment certaines personnes peuvent-elles arriver à la date à laquelle la Terre primitive aurait 10 à 20 000 ans? Les gens utilisent les généalogies et ce qu'ils font, c'est commencer à additionner les âges de, ce type a vécu 900 ans, tel type a vécu 9 ou 69 ans, tel type a vécu, et ils additionnent en toutes les généalogies. On finit par déterminer l'âge de la Terre en additionnant les généalogies. Peux-tu faire ça? Les généalogies sont-elles censées nous donner une chronologie? La chronologie a à voir avec chrono qui signifie « temps » en grec. Qu'est-ce que la généalogie a à voir là-dedans? Père-fils, père-fils ou quoi que ce soit dans la famille, c'est comme ça. La chronologie et la généalogie sont deux choses différentes. Vous ne pouvez pas les mélanger et je vais vous montrer en quoi ils ne sont pas identiques. Ainsi, les deux grandes généalogies par lesquelles les gens tentent d'établir l'âge de la Terre sont Genèse 5, la généalogie d'Adam, puis Genèse 11 avec la généalogie allant de Noé jusqu'à l'époque d'Abraham. Alors ils additionnent les chiffres de l'âge de ces gars-là. Le problème, c'est que si vous additionnez la généalogie, vous obtenez 4004 avant JC comme date de création du monde. Si vous additionnez les généalogies comme l'a fait MGRHR, vous arrivez à la création de la Terre en 4004 avant JC. Pourquoi est-ce impossible? Si la Terre a été créée en 4004 avant JC, il faudrait un déluge au moins 1000 ans plus tard, car beaucoup de ces types vivent au moins 900 ans. Maintenant, si vous venez de 4000 avant JC, vous en êtes à quand le déluge s'est-il produit? 3000 avant JC ou dans la gamme 2000? Quel est le problème avec ça? Avons-nous des traces écrites remontant à 3000 avant JC provenant à la fois des Mésopotamiens et des Égyptiens? Donc ça ne peut pas être le cas. À propos, il y a une tour probablement aussi grande que ces deux piliers à Jéricho, vieille de 10 000 ans. Si cette tour de Jéricho est datée de 8000 avant JC, comment la Terre peut-elle être créée en 4000 avant JC? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce Dieu qui a fait la tour? Je suis désolé, c'était censé être une blague. Ce n'est pas Dieu qui a fait la tour. Les êtres humains ont construit la tour en 8000 avant JC, vous devez donc y faire très attention. Matthieu 1, la généalogie n'est pas égale à la chronologie, les noms sont sautés entre 10h01 et 16h25. Maintenant, laissez-moi vous montrer ceci. Si vous avez vos Bibles, passez à Matthieu 1 et je vous montrerai la généalogie de Jésus-Christ. Y a-t-il des trous dans la généalogie de Jésus-Christ? Oui. Donc, vous regardez Matthieu 1, verset 8, il est dit que Salomon était le père de Roboam, Roboam le père d'Abija, Abija le père d'Asa, puis le verset 8, Asa le père de Jassophet, Jassophet le père de Joram. Ensuite, il est dit que Joram était le père d'Ozias au verset 8. Matthieu 1, 8 dit que Joram était le père d'Ozias, est-ce faux? Joram était-il le père d'Ozias? Et la réponse est, non, il ne l'était pas. Joram n'était pas le père d'Ozias. C'est un fait, que vous soyez d'accord ou non avec moi, cela ne fait aucune différence. C'est un fait. Joram n'était pas le père d'Ozias, il était l'arrière-arrière-grand-père. Il y a trois noms qui sont sautés entre Joram et Ozias. Vous dites, vous parlez vraiment dogmatique ici Cyril de Brent, comment le savez-vous? Eh bien, je ne sais rien. Je vais à la Bible. Si vous regardez une chronique 3, 11, cela nous indique les noms des trois rois qui étaient entre Joram et Ozias. Il énumère les trois rois qui sont ignorés et leurs noms sont Achazia, Joès et Amatsia. Trois noms sont donc ignorés. Maintenant, pourquoi Matthieu sauterait-il trois noms? Il descend sur la liste des rois d'Israël, la plupart des Juifs connaîtraient-ils les rois d'Israël? Nous ne mémorisons pas les rois de cette classe, mais la plupart des Juifs connaissent tous les rois et savent que ces trois noms ont été ignorés. Pourquoi Matthieu a-t-il fait ça? Laissez-moi vous lire jusqu'au verset 17. Regardez ceci, Matthieu 1h17. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Quelle était approximativement la date d'Abraham? 2000 avant JC. Qu'est-ce que David? 1000 avant JC. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à l'exil à Babylone. Ainsi, depuis David, 1000 avant JC jusqu'à 586 avant JC, la captivité babylonienne, il y a 14 générations. Ensuite, il est dit qu'il y a 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Il y a donc 14 générations d'Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à l'exil babylonien, et 14 générations depuis l'exil jusqu'à Jésus. Comment Matthieu a-t-il fait en sorte qu'il soit 14, 14 et 14? Devinez quoi, il l'a fait en supprimant trois des noms. Connaissez-vous les facteurs de phage? J'étais en sciences et ils appellent cela des facteurs de phage. Cela n'a pas fonctionné, alors nous avons supprimé trois noms pour en faire 14. Maintenant, vous dites qu'il n'a pas vraiment fait ça. Oui, il a vraiment fait ça. Nous connaissons les trois noms qu'il a sautés. Maintenant, pourquoi a-t-il fait ça? Une suggestion, et je pense qu'elle est bonne en fait, en anglais on fait quoi? Avez-vous des lettres qui composent des mots? Les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 sont-ils différents des lettres A, B, C? Nous avons donc deux systèmes différents, les chiffres et les lettres. Savez-vous que les Juifs utilisent leur alphabet pour leurs chiffres? Maintenant question, est-ce un problème? Donc, A vaut 1, B vaut 2, C vaut 3, D vaut 4, E, quoi qu'il en soit. Leurs lettres et leurs chiffres peuvent par moments créer des problèmes. Parfois, vous ne savez pas si vous regardez un chiffre ou si vous regardez un mot. C'est très intéressant que si vous prenez la lettre hébraïque pour D, qui est 4, V est 6, et vous prenez D et 4 et vous les additionnez, vous avez 4 plus 6 plus 4, c'est ce que 14. Qui est ce DVD? David. Donc, la suggestion ici est que Matthieu dit, Jésus-Christ est le fils de qui? Le fils de David, 14, 14, 14, David, David, David. Tu vois ce qu'il fait? Il laisse tomber ces trois-là pour en faire 14 parce que c'est ce qu'il voulait dire. Si vous ne comprenez pas, il dit explicitement au premier verset, un récit de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Ensuite, il construit cette généalogie pour le montrer. Au fait, est-il acceptable de laisser tomber trois noms comme celui-là? Le mot, père, signifie également, ancêtre. Jésus-Christ, fils de David, le mot, fils, est-il utilisé ici? Il y a combien de David à Jésus? Jésus était nul, n'est-ce pas? David est un 1000 avant J.C. Il y a donc 1000 ans là-bas. Jésus n'était pas vraiment nul. Je disais juste ça pour voir si quelqu'un souriait. Vous avez donc 1000 ans jusqu'à l'époque de Jésus. Alors, Jésus-Christ, le fils de David, il était quoi? Il était un descendant de David. Le père de Jésus-Christ n'était pas directement David. Son père était Dieu et le Saint-Esprit. Mais vous savez ce que je dis, David était son ancêtre par Marie. C'est donc ce qui, à mon avis, se passe là-bas. Alors tout ce que j'essaie de dire, c'est, sommes-nous sûrs qu'il y a des trous dans les généalogies? Oui. Vous ne pouvez pas utiliser la généalogie pour établir une chronologie. Il peut y avoir des trous. Qui sait combien de temps ces trous peuvent durer? Cela vous laisse donc avec le 4004 avant JC. Personne ne l'accepte aujourd'hui. C'est quelque chose que MGRHR a fait il y a longtemps. Personne ne le soutient aujourd'hui parce que, par exemple, à Jéricho, nous avons des restes à Jéricho qui remontent à 8000 avant JC et donc 4004 avant JC ne peut pas être exact. On se rend compte que dans les généalogies, quand on dit « père / fils », il peut y avoir d'énormes écarts. Il est peut-être le grand-grand super-arrière-grand-père d'un tel. Alors soyez prudent avec ça. F. Modèle littéraire dans Genèse 1, accomplissement du fiat entre 16h26 et 18h54. Maintenant, dans le livre de la Genèse, nous parlons du premier chapitre. Il y a quelques modèles ici et je vais vous montrer deux modèles. Ce sont des modèles plutôt intéressants en termes de Genèse 1, les jours de la création. C'est ce qu'on appelle le modèle fiat fulfillment et le voici. Voyez si vous reconnaissez cela. Cela arrive encore et encore. Voici Genèse 1, les 7 jours de la Genèse. Vous souvenez-vous des 7 jours de la Genèse? Cela commence toujours par, et Dieu dit, il y a une annonce. Ensuite, il y a un commandement, et Dieu a dit qu'il en soit ainsi, quoi? Que la lumière soit. Deuxième jour, qu'il y ait un quoi? Un firmament au-dessus séparant les eaux du dessus et les eaux du dessous. Que la terre sèche se lève, que les cieux produisent le soleil, la lune et les étoiles. Alors, que ce soit. Dieu donne un commandement. Et Dieu a dit, il y a une annonce, puis il y a un commandement, que ce soit. Que la lumière soit, et quelle est la prochaine étape? Ensuite, il y a l'accomplissement. Dieu a dit, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a dit qu'il y ait X, c'est peut-être une autre façon de le dire. X semble trop impersonnel, cela ressemble à un cours d'algèbre. Mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait X et il y avait X. Quel que soit le jour, il y avait les 6 jours. Ensuite, Dieu évalue son propre travail. C'est intéressant. Dieu évalue-t-il son propre travail? Après l'avoir créé, est-ce qu'il regarde en arrière et l'évalue? Il est l'évalue, et Dieu vit que ce sur quoi il travaillait, la lumière, le soleil, la lune et les étoiles, Dieu évaluait son travail, et il vit que c'était bon. Et puis il y a la fin de la journée. Et il y avait un soir et il y avait un matin, quoi? Jour 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Le septième jour, Dieu se repose. Et Dieu regarda le septième jour et il vit tout ce qu'il avait fait et que c'était quoi? Très bien, Tov Meodé, c'était très bien. Donc, à la fin, Dieu réfléchit à tout cela. C'est très bien. Vous souvenez-vous avoir vu ce schéma encore et encore chaque jour? C'est donc une sorte de structure littéraire dans laquelle chaque journée est intégrée et il est utile d'en voir l'organisation. C'est ce qu'on appelle le modèle Fiat et Fulfillment. J'ai modèle de jour parallèle entre 18h55 et 21h58. Maintenant, le suivant est en fait la façon dont je me souviens des jours de la Genèse. Si je vous demandais ce qui se passait le cinquième jour, sauriez-vous comme ça ce qui se passe le cinquième jour? Sauriez-vous ce qui a été fait le jour 4? Voici comment je m'en souviens, qu'est-ce qui a été créé le premier jour? Ok, a-t-il dit, que la lumière soit, dès le premier jour. Or, quel jour l'homme a-t-il été créé? 6. Si vous connaissez le premier et le sixième jour, vous obtenez tous les autres jours. Dans le deuxième modèle, je vais vous montrer comment procéder. Le psaume chapitre 33, verset 6 dit, « Par la parole du Seigneur, les mondes ont été formés, et il parle donc de la puissance de la parole de Dieu. C'est la parole qui donne vie aux choses. » Psaume 33, 6 et 9 décrivent la création par la parole de sa bouche. Dieu a donc créé la parole et c'est une chose intéressante avec le modèle Fiat accomplissement. Maintenant, voici le programme de journée parallèle. Maintenant, c'est vraiment sympa et ne vous laissez pas époustoufler. C'est assez simple. Le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Le jour parallèle, le quatrième jour, il fait le quoi? Les porteurs de lumière. Quel serait un exemple de porteur de lumière? Soleil, lune et étoile. Ainsi, le premier jour, il fait la lumière, le quatrième jour, il fait les porteurs de lumière. Le deuxième jour, il sépare l'eau du dessus de celle du dessous. Maintenant, quelles sont les eaux en dessous? Les océans. Quelles sont les eaux au-dessus? Des nuages. Il sépare donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le cinquième jour, il fabrique les poissons et les oiseaux. Où habitait le poisson? Les eaux ci-dessous. Où habitaient les oiseaux? Les eaux ci-dessus. Vous avez donc les oiseaux et les poissons qui évoluent dans les eaux du dessus et dans les eaux du dessous. Le troisième jour, il crée la terre ferme et le sixième jour, il crée les habitants de la terre ferme. Qui sont les habitants de la terre ferme? Nous, les gens. C'est ainsi qu'il crée des humains et des animaux terrestres. Il crée des créatures terrestres le sixième jour. Donc, au fait, si vous savez que les humains et les créatures terrestres sont créés le jour 6, le jour 1 est la lumière. Savez-vous quel est le jour 4? Oui, ce sont les porteurs de lumière. Si vous connaissez le jour 6, il crée les créatures terrestres, vous savez ce qu'est le jour 3, la terre ferme. Et puis au milieu tu as le quoi? Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les poissons et les oiseaux. Vous voyez comment tout ça fonctionne? J'espère que je ne fais pas que rêver ici, car cela rend les choses vraiment faciles. Si vous connaissez le premier et le dernier jour, vous pouvez en quelque sorte reconstituer le reste. Au fait, quel jour ai-je sauté? Le jour du sabbat, Dieu se reposait. Question, Dieu s'est-il reposé parce qu'il était fatigué? Non. Il s'est reposé et donc le Shabbat est organisé non seulement parce qu'il était personnellement fatigué, mais parce que Dieu réfléchit aux choses. H4MIG remplissage entre 21h59 et 23h14. Maintenant, une autre chose que je dois souligner à propos de ce tableau, dans Genèse, vous souvenez-vous de Genèse 1, 2. Et la terre était ténèbre, et comment dire, le tout était informe et vide. Vous souvenez-vous que la terre était informe et vide et que les ténèbres étaient trop sombres? Vavohu. Le monde était informe et vide, voyez-vous ce que font nos jours? Les jours 1, 2 et 3, ce sont les jours de formation. En d'autres termes, la terre était informe et vide et que fait Dieu? Il prend la forme sans forme et il forme ce qui était sans forme. Alors il fait quoi? Il remplit ce qui était vide. Ainsi, ces trois premiers jours sont des jours de formation et les trois seconds jours sont des jours de remplissage. Ainsi, ce qui était informe prend forme, et ce qui était vide se remplit. À propos, même avec les êtres humains, il dit aux êtres humains que nous devons être fécondes et nous multiplier. Que devons-nous faire à la terre? Remplissez la terre. Vous obtenez donc cela en formant et en remplissant le compte de création. Je ne sais pas, mais cela m'aide simplement à tout mettre en place. Si je connais le premier jour et le sixième jour, j'ai le reste. Voilà donc la structure des jours parallèles des six jours de la création. Image de Dieu dans l'homme 23, 15-31, 57. Maintenant, passons à autre chose et ce que je veux faire ensuite, c'est parler de l'image de Dieu dans l'homme. Nous voulons donc commencer par ce genre de questions sur l'image de Dieu dans l'homme. Que signifie être humain? Est-ce une grande question aujourd'hui? Est-ce que dans votre vie, vous allez faire face à cette épreuve? Laissez-moi simplement vous expliquer comment cela va devenir une question majeure pour vous. Tout d'abord, l'homme est-il composé d'une, de deux ou de trois parties? Est-ce l'homme, le corps, l'âme et l'esprit? Ou est-ce juste le corps, l'âme barre oblique l'esprit? Ou certaines personnes disent simplement que vous n'êtes que corps. Vous n'êtes que votre cerveau, c'est tout. Tout ce que vous êtes, c'est votre corps physique. Alors, qu'est-ce qu'un être humain? Comment sommes-nous composés? En quoi les êtres humains sont-ils différents des animaux? Il y a des gens aujourd'hui qui disent, sauvez les animaux, tuez tout le monde. Oui, pour certains, les animaux semblent en réalité plus importants que les humains. Nous avons des groupes et PETA me plaît toujours. Je dis toujours aux gens que je suis un membre de PETA, je suis une personne qui mange des animaux savoureux. Cela ne passe généralement pas très bien par certains d'entre vous, mais quoi qu'il en soit. Quelle est la place du clonage? Peuvent-ils maintenant prendre certaines de vos cellules et réellement en construire un autre? Vous souvenez-vous qu'ils ont fait ça avec un mouton? Chariot. Que se passe-t-il s'ils font cela avec une personne? Est-ce vraiment vous ou est-ce vraiment quelqu'un de différent si vous êtes cloné? Que signifie être humain à ce stade et que signifie être vous-même? Cyborg, les êtres humains obtiennent-ils davantage de pièces provenant d'autres endroits? En d'autres termes, tout d'un coup, Peter Stein reçoit un rein donné. Est-ce que les gens donnent des reins à une autre personne? Maintenant, vous vous promenez et vous avez le rein d'une autre personne. C'est toi ou eux? Tu as quoi? Des cœurs sont maintenant transplantés entre les gens. Foi, tu penses à Steve Jobs, on m'a dit et je ne sais pas si c'est vrai qu'il a un cancer du pancréas. C'est vraiment un genre de chose finie. Le cancer du pancréas est mortel. Mais Jobs a-t-il eu un foie, est-ce que quelqu'un le sait? Je pense qu'il a un foie, n'est-ce pas? Et le foie a été transplanté. C'est vraiment cool qu'il ait transplanté un foie. Dans un sens, il vous transplante le cœur de quelqu'un d'autre, est-ce vraiment vous? Ma femme est confrontée à ce problème, je l'appelle ma femme bionique. Elle vient de se faire poser un genou, donc elle est maintenant une femme en titane. Elle a ce genou en titane. Vous devez donc rester à l'écart lorsqu'elle veut vous donner un coup de pied. Elle s'est cassée la cheville, elle a donc des plaques dans le pied et quelques vis. Elle y perd donc toujours quelques vis. Je vais à l'aéroport avec ma femme, je passe par le scanner et que se passe-t-il? Enlevez tout votre métal. Maintenant, nous n'allons plus à l'aéroport à cause de la façon dont on se fait pelleter quand on y entre. Au fait, je dis ça et vous riez, ce n'est pas une question de rire. Mon fils a une femme de 25 ans, 25 ans. Chaque fois qu'ils vont à l'aéroport, son numéro est appelé à chaque fois. Est-ce que ça vous donne une idée? Est-ce que ça vous met en colère? Mon fils a fini par se rendre au mariage de sa sœur en voiture 22 heures sur 22 pour que sa femme n'ait pas à se faire enregistrer à l'aéroport. Je ne sais pas. Tout ce que je dis, c'est que certaines des choses que fait actuellement la TSA me dérangent vraiment. Ils le font au nom de la sécurité, mais c'est beaucoup de mauvaises choses. Permettez-moi de parler des machines spirituelles. Donc ce que je dis, c'est, est-il possible d'échanger des parties du corps de personnes? Différentes parties de jambes et de bras et des choses comme ça. Au fait, c'est bon. Oui, c'est bon pour certaines personnes. Je veux dire, certains gars ont les jambes arrachées et on les remet en place. Qu'en est-il des machines spirituelles? Connaissez-vous la loi de mort? La loi de mort dit essentiellement ceci, que l'intelligence des ordinateurs double tous les 18 à 24 mois. C'est environ tous les 2 ans que les ordinateurs doublent en intelligence. Je veux que tu réfléchisses à ça. Quand j'étais au lycée juste après la guerre civile, ils avaient un ordinateur et notre premier ordinateur d'école était aussi gros, voire aussi gros. C'était énorme et il y avait 2 unités de mémoire. Donc tu as fait A2 plus B2 égale C2, tu pouvais faire le A2, tu pouvais faire le B2 mais tu n'avais pas de troisième place pour mettre C2. Il y avait 2 unités de mémoire et l'ordinateur troué coûtait $5000. Maintenant ce qui est arrivé. En 18 à 24 mois c'est passé de 2 à quoi? 4 puis un autre c'est passé de 4 à quoi? 8 puis de 8 à 16, de 16 à 32, de 32 à 64, et puis tout d'un coup, ça commence à augmenter. Alors que se passe-t-il après un certain temps? Maintenant, cela passe à 1 mégaoctet, cela passe à 2 mégaoctets, cela passe à 4 mégaoctets, 16, et maintenant tout d'un coup, nous faisons quoi? Des gigaoctets et cela passe de 1 gigaoctet à 2 gigaoctets, à 4 gigaoctets, 4 à 8, à 16, à 32. Et maintenant nous obtenons des téraoctets. 1 téraoctet passe à 2 téraoctets, 4 téraoctets, et tous les 18 mois, son intelligence double. Question, un ordinateur peut-il jouer contre un être humain aux échecs? Un ordinateur peut-il gagner? Oui, pour qu'il puisse programmer un ordinateur pour gagner aux échecs. L'ordinateur devient de plus en plus intelligent, est-ce que ça devient plus intelligent plus rapidement que vous, les gars? Oui. Donc ce que dirait Kurzweil Dumi, c'est que ce truc ici est du carbone. C'est du carbone et ce truc ici ne fonctionne que très bien. Les ordinateurs continuent de doubler en termes d'intelligence et, selon lui, d'ici 2025, les ordinateurs seront plus intelligents que vous. Je serai mort mais il sera plus intelligent que vous les gars. Pourquoi? L'intelligence d'un ordinateur double constamment. Ce qu'il dit, c'est que le carbone appartient au passé. Ce qu'il dit, c'est que l'avenir, c'est le silicium. Ce qui va se passer, c'est que les ordinateurs passeront par nous en matière de renseignement d'ici 2020 ou 2025. Vous serez en vie, les gars, c'est quoi? Dans 10 à 15 ans, ce genre de choses se produira. Avez-vous déjà des robots avec qui vous pouvez parler et leur demander de faire des activités? Sont-ils vraiment stupides à ce stade? Oui, et c'est ce qu'il dit, il s'agit de l'intelligence d'un moustique. Mais quel est l'avantage pour eux? Tous les 2 ans, ils doublent. Voyez-vous où ça va? À terme, aurons-nous probablement des ordinateurs sous forme de robots capables de vous parler dans une conversation ouverte? En fait, seront-ils plus intelligents que vous? C'est là que nous allons. Alors, que signifie être humain quand on a une machine plus intelligente qu'un être humain? Que signifie être humain? Nous observons donc le paysage technologique et nous disons, waouh, il se passe des choses assez importantes. Maintenant, que dit l'écriture à ce sujet? C'est le verset qui est essentiel pour comprendre ce que signifie être humain. Lorsque Dieu crée les humains dans le chapitre 1 de Genèse, c'est ce qu'il dit. C'est un grand verset très significatif et significatif. Dieu dit, laissez-nous, dit-il, laissez-moi, faire l'homme. Non. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et laissez-les faire quoi? Règle. L'homme est-il donc conçu pour gouverner? qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu a donc créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, il l'a créé, homme et femme, il les a créés. L'homme est créé à l'image de Dieu. Les animaux sont-ils créés à l'image de Dieu? Non, seul l'homme est créé à l'image de Dieu. J. 4 aspects de l'image de Dieu dans l'humanité 31, 58-41, 45. La question est alors, que signifie l'image de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Je veux donc passer en revue 4 aspects de cette image de Dieu. Ces aspects se combinent et ne s'excluent pas mutuellement, ils se chevauchent. Mais seulement 4 aspects de l'image de Dieu. Permettez-moi d'abord de passer en revue les 4 d'entre eux, puis nous les aborderons en détail. Premièrement, les êtres humains possèdent des qualités spirituelles et morales. Les êtres humains ont des qualités spirituelles et morales. Il y avait un grizzly dans le parc de Yellowstone juste avant notre arrivée. Un grizzly mange un être humain, tue un être humain. Est-ce que ce grizzly est immoral? Un grizzly mange du saumon, le grizzly est-il immoral? Les grizzlies mangent-ils des trucs? Est-ce que c'est ce qu'ils font? Est-ce moral ou immoral? C'est ce que font les grizzlies. C'est une bonne réponse, c'est amoral. Ce n'est pas moral. En d'autres termes, cela ne fonctionne pas dans cette catégorie. Un grizzly, vous ne pouvez pas lui faire la leçon, le mettre en prison et lui dire que vous allez passer 5 ans en prison pour avoir mangé cet homme. Je ne veux pas faire la lumière à ce sujet. Évidemment, le gars a été tué et sa femme a été épargnée et c'est vraiment grave. Mais question, avez-vous affaire à un animal? L'animal n'a pas le sens du bien et du mal. C'est comme il l'a dit, c'est amoral. Maintenant, si un être humain mange quelqu'un, est-ce un problème? Est-ce qu'il va me frapper avec ce, c'était un acte amoral? Maintenant, nous dirions que c'est immoral. Est-ce qu'on mange des gens? Si vous mangez des gens, est-ce un problème? C'est un problème? Au fait, y a-t-il une différence même au niveau moral, y a-t-il une différence si quelqu'un mange quelqu'un d'autre, nous disons que c'est un problème. Existe-t-il différents niveaux de moralité? Mon fils, par exemple, quand il était jeune, était censé participer à une étude biblique avec la Child of Evangelism Fellowship. Il faisait une étude biblique dans le quartier. Je rentre à la maison, mon fils fait du vélo dans le quartier et je suis venu d'une manière différente. Donc il ne savait pas d'où je venais. Il rentre à la maison et je dis, « Eh, comment s'est passée l'évangélisation des enfants ?» Il dit, « Oh, ouais, c'était génial papa. » Je dis, « Oh, vraiment ? Quel genre d'histoire ont-ils raconté ? Et vous le voyez rouler des yeux comme ça. C'était Noé et le déluge, Noé et le déluge. » Alors il commence à me parler de Noé et du déluge. Il invente cette histoire. Mon fils m'a-t-il menti? En gros, est-ce que tous mes enfants m'ont menti? Pour être honnête avec vous, oui. Alors je surprends mon fils à me mentir. Est-ce au même niveau que le cannibalisme? Diriez-vous que c'est un peu différent? Certains disent, tous les péchés sont pareils. Eh bien, alors vous pouvez d'abord vous adresser aux cannibales, car s'ils sont tous pareils, cela ne devrait vous poser aucun problème. Mais ce que je dis, c'est que, vous savez, mon fils me dit un mensonge comme celui-là, était-ce mal que mon fils me mente? Oui. Il y a des choses auxquelles vous devez faire face, mais est-ce différent de manger quelqu'un? Je dirais qu'il y a quelques différences, il faut donc être prudent et perspicace. Elle élève parle, elle dit qu'ils sont tous pareils mais qu'il y a des conséquences différentes et je veux dire non. Oui, les conséquences sont certainement différentes. Elle a raison de dire que les conséquences sont différentes. Oui, les conséquences sont très différentes. Mais je veux le dire aussi. En d'autres termes, n'y a-t-il pas en vous une réaction différente si quelqu'un devient cannibale ou si quelqu'un ment au sujet de sa participation à une étude biblique? Ce que je dis, c'est de maîtriser cela. Oui, ce sont deux péchés. Tout d'abord, ce sont tous deux des péchés et c'est là qu'ils sont identiques dans le sens où ils sont tous deux des péchés. mais je veux distinguer, comment devrais-je dire, ton instinct ne te dit-il pas que le cannibalisme est pire que mon fils qui me ment? Votre instinct devrait vous dire quelque chose à ce sujet et si ce n'est pas le cas, alors j'aimerais saler et poivrer lorsque vous m'abattez. Quoi qu'il en soit, désolé. Il y a donc un grand débat là-dessus et nous allons y travailler. Maintenant oui. Un élève parle, oui, et c'est ce qu'elle voudrait dire, à savoir que tous les péchés sont identiques. Mais ce que je dis, c'est que vous allez voir différentes réactions de la part des gens et de Dieu sur différents péchés. En d'autres termes, Dieu sera-t-il vraiment gêné par certains péchés par rapport à d'autres péchés? À propos, ce sont tous des péchés et ce sont tous des péchés qui peuvent vous condamner à l'enfer pour ainsi dire. Mais la réaction de Dieu est-elle différente par rapport à certains d'entre eux lorsque nous parcourons l'Ancien Testament? Vous allez voir une réaction très forte pour certains péchés et pas pour d'autres. Je veux essayer de comprendre cela. Je veux essayer de comprendre cela pour mieux comprendre Dieu, mais c'est un excellent point. Or, relationnel signifie simplement qu'une partie de l'image de Dieu est relationnelle. Que, faisons l'homme à notre image, il y a là une pluralité et donc une partie de l'image est relationnelle. Domination et domination, que l'image de Dieu a quelque chose à voir avec nous en tant qu'êtres humains gouvernant et dominant la terre. Nous voulons examiner cet aspect des règles et comment cela fonctionne. Au fait, voyez-vous la perversion de cette idée, que les gens gouvernent. Les gens essaient-ils de gouverner les autres? Le pouvoir corrompt-il? Le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc ce que vous avez ici, c'est l'humanité pécheresse, qui prend cette règle et essaie de l'utiliser pour dominer et c'est un vrai problème. Celui-là, je vais avoir le plus de mal à vous le vendre. Ce que je vais essayer de suggérer, c'est que nous ressemblons réellement à Dieu physiquement. Dieu a une dimension physique et nous ressemblons à Dieu. Vous dites, Hildebrandt, Dieu est-il un vieil homme chauve? Non. Nous ressemblons à Dieu, je vais essayer de le dire en ce qui concerne notre humanité, pas dans le détail du fait d'être vieux et gros. Passons maintenant à cela. Qualité spirituelle, capacité de faire des choix moraux. L'humanité est créée à l'image de Dieu. Il a la capacité de faire des choix moraux. Les animaux ne font pas les choix moraux que nous savons que l'homme est capable de faire. Où en trouve-t-on la preuve? Nous allons au Nouveau Testament et c'est vraiment intéressant. Les Colossiens du Nouveau Testament sont parallèles au livre des Éphésiens. Il y a beaucoup de chevauchements entre Colossiens et Éphésiens dans le Nouveau Testament. Nous avons donc un passage parallèle entre Colossiens 3, 10 et Éphésiens 4, 24. Il est dit, « Et j'ai revêtu le nouveau moi qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de son Créateur. » À l'image de son Créateur, il se renouvelle en quoi? Dans la connaissance, les êtres humains ont-ils la capacité de savoir? Nous avons la capacité de connaître et nous sommes renouvelés à l'image du Christ. Voyez-vous ce qui se passe ici? L'image a-t-elle besoin d'être renouvelée? L'image a été endommagée à l'automne et doit ensuite être renouvelée. Ici, dans Éphésiens, il est dit, « Et revêtir le nouveau moi, créé pour être semblable à Dieu. » Nous sommes créés pour être comme Dieu. En quoi sommes-nous semblables à Dieu? En vraie justice et sainteté. Les êtres humains peuvent-ils être saints? Laissez-moi d'abord le dire de cette façon, Dieu est saint. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu est saint. Les êtres humains ont-ils la capacité d'être saints? Oui. Soyez saints, dit Dieu, parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. La justice s'oppose à la méchanceté. Les êtres humains sont-ils des êtres moraux? Ils ont la capacité de justice, ont-ils aussi la capacité de faire du mal? Il dit donc, soyez renouvelés à l'image du Christ. L'image du Christ est comme être rendu semblable à Dieu, dans la vraie connaissance, la justice et la sainteté. Je crois que c'est ainsi dans la confession. C'est donc là que nous constatons qu'il y a fondamentalement un aspect spirituel et moral. Les êtres humains sont créés spirituellement et moralement comme Dieu, nous pouvons savoir, nous pouvons être justes ou injustes, nous pouvons être saints et nous pouvons être impies. Mais nous avons la capacité d'être saints, justes et de connaître. Voilà donc le côté moral de l'image basée sur ces versets. Maintenant, que s'est-il passé lorsque la chute a eu lieu, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché? Avons-nous perdu l'image de Dieu? James nous dit, non, mais l'image est peut-être gâchée. L'image est peut-être gâchée, mais nous ne l'avons pas totalement perdue. Ainsi Jacques 3, 9 dit, avec la langue nous louons notre Seigneur et Père et avec elle nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Jacques dit, les êtres humains sont toujours créés à l'image de Dieu, vous ne devriez donc pas les maudire parce qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie-t-il que tout le monde dans cette classe est créé à l'image de Dieu? Oui. Cela devrait-il alors affecter la façon dont nous nous traitons les uns les autres? Oui. Cela affecte-t-il la façon dont je vous traite en tant qu'étudiant créé à l'image de Dieu? Oui. Cela affecte-t-il la façon dont vous me traitez comme quelqu'un créé à l'image de Dieu? Cela devrait affecter la façon dont vous traitez les gens en réponse à cela. Les gens sont toujours créés à l'image de Dieu, mais c'est gâché et il y a des implications. Nous parlerons des implications plus tard. Cas aspect relationnel de l'image de Dieu 41, 46-49, 46. Maintenant, un autre aspect de l'image de Dieu est le « nous » de l'image de Dieu. Le « nous » ou est l'aspect relationnel de celui-ci est « faisons l'homme à notre image ». Le « nous » est-il singulier ou pluriel? Pluriel? Faisons l'homme à notre image. Nous sommes donc créés à l'image de Dieu en tant que « nous ». L'homme est construit pour la relation et alors comment comprenez-vous cette pluralité « faisons l'homme à notre image » ? Il existe différentes manières de le comprendre et cela passe par certaines d'entre elles. Permettez-moi de commencer par le pluriel de majesté. Votre mère vous a-t-elle déjà dit, nous avons décidé que vous ne devriez pas aller dans cet endroit. Nous avons décidé, et l'hypothèse est que ce sont le père et la mère qui ont décidé, mais c'est en réalité la mère qui a décidé et elle dit, nous avons décidé. Mais est-ce qu'elle peut dire cela parce qu'elle est la mère et que cela implique que le père est là-dedans? Lorsque le roi dit, nous avons décidé, est-ce vraiment le roi qui prend la décision, mais le roi peut-il utiliser le, nous, et nous elle appelons le, nous royal? Le roi peut-il faire ça? Oui. C'est comme le roi quand il dit, nous avons décidé, c'est en réalité juste lui-même mais c'est lui le roi. En hébreu, ils ont ce qu'on appelle le pluriel de majesté. En anglais, nous avons le singulier qui signifie que vous avez un élément. Le pluriel veut dire quoi? Deux ou plus. Nous utilisons donc la pluralité pour attribuer le numéro de quelque chose, qu'il soit singulier ou pluriel, plusieurs nombres. En hébreu, ils font singulier et pluriel mais ils aussi quand quelque chose est vraiment 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 gros, ils utilisent aussi le pluriel. C'est le pluriel de majesté. Alors tu aurais quoi? Des trucs, et si vous voulez dire que les trucs étaient vraiment très gros, vous diriez quoi? Des trucs. Vous mettriez un « s » dessus pour que ce soit comme ça. Maintenant, pour nous, quand nous disons « truc », cela signifie beaucoup de « truc ». Mais quand ils disent « truc » et « truc », ils peuvent en réalité vouloir dire qu'il s'agit de « gros truc ». Désolé, j'aurais probablement dû utiliser un mot différent ici. Mais de toute façon, savez-vous alors ce que je dis avec le pluriel de majesté? En d'autres termes, c'est tellement grand que, faisons l'homme, Dieu parlant à la manière du « nous » est un pluriel de grandeur et de majesté. C'est une possibilité basée sur la grammaire hébraïque qui explique pourquoi le pluriel, faisons l'homme, est utilisé. Je pense qu'il existe ici d'autres meilleures possibilités, la cour céleste. Quelqu'un se souvient-il du chapitre 6 d'Isaïe? Dieu est dans sa cour céleste et Dieu pose la question, qui ira pour nous? Le pluriel y est utilisé. Dieu parle à ses êtres célestes, qui ira pour nous? Isaïe dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Est-ce que quelqu'un se souvient de Job? Dans le livre de Job, le premier chapitre, Dieu est là-haut et il dit en gros, avez-vous pensé à mon serviteur Job? Et il parle au groupe dans la cour céleste. Il y a un, nous, là et, le Satan, dit, eh bien, Job est bon, mais il ne l'est que parce que vous le bénissez avec tout cela. Laisse-moi l'enlever et il te maudira en face. Donc ce « nous » appartient à la cour céleste, est-ce que cela a un sens? Faisons l'homme à notre image, c'est ce que Dieu dit dans la cour céleste. Je pense qu'il y a une confirmation de cela à la fois dans Job 1 et dans le chapitre 6 d'Ésaïe. Je veux mettre ici un signe plus indiquant que je pense que ce point de vue a une bonne chance. Maintenant, peut-être que Dieu se parle à lui-même. Est-ce que tu t'es déjà parlé? Qu'allons-nous faire? Devons-nous faire ceci ou cela? Si nous faisons cela, il y aura toutes ces conséquences. Si nous faisons cela, il y aura toutes ces conséquences. Que devrions-nous faire? Est-ce que tu te parles parfois? D'accord, vous ne vous parlez pas. Quoi qu'il en soit, je me parle. Vous pouvez donc utiliser l'autodélibération, que devrions-nous faire, en vous-même. À propos, la Bible comporte-t-elle une telle autodélibération? Presque jamais, pour être honnête, je ne pourrais pas vous dire pour le moment un passage où vous obtenez ceci avec Dieu se parlant à lui-même. Je pense donc que l'autodélibération est fausse. C'est faux. Cela apparaît rarement dans les Écritures, donc je ne pense pas que vous vouliez suivre cette voie. Certains disent que, faisons l'homme à notre image, est la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'agit d'une discussion entre la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, telle est la Trinité. Beaucoup de gens suggèrent cela et je ne suis pas prêt à dire que c'est faux, mais je vous demande, Moïse aurait-il compris la Trinité? Moïse aurait-il compris le Père, le Fils et le Saint-Esprit? En fait, à l'époque de Jésus, c'est-à-dire 1400 à 1200 ans plus tard, comprenait-il le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Quand Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, ont-ils voulu le lapider et le tuer? Donc ce que je veux dire c'est, dans quelle mesure la Trinité était-elle bien comprise à l'époque? Je ne pense pas que Moïse ait la moindre idée de la Trinité. Oui, il aurait pu, mais le problème est que personne ne l'aurait su. Supposons que Dieu montre à Moïse la Trinité, mais que lorsque Moïse descendra de la montagne, aucun de ces gens n'aura la moindre idée de ce dont il parle parce que Dieu dans l'Ancien Testament est un. Le Seigneur notre Dieu est un et ils insistent vraiment sur ce point. Je ne sais donc pas à quel point ils connaissaient bien la Trinité. Alors ce que je dis, c'est, Moïse aurait-il bien compris cela? Au fait, a-t-il fallu 300 ans à l'Église pour comprendre la Trinité? L'Église primitive luttait vraiment pour la Trinité. Donc ce que je dis, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure Moïse a bien compris la Trinité dans « Faisons l'homme à notre image ». Il pourrait être. Je ne veux pas l'éliminer, mais tout ce que je dis, c'est que je dois me remettre à la place de Moïse. Ce que je veux suggérer, c'est que si vous commencez à dire que Moïse écrit des choses dont il n'a aucune idée, vous devez être prudent avec cela car il est possible qu'il ait écrit mieux qu'il ne le pensait. Mais je dois avoir une bonne raison pour cela. En d'autres termes, s'il vous dit quelque chose dans le futur, il est possible qu'il ait mieux écrit qu'il ne le pensait. Je ne veux pas éliminer cette possibilité. Je dis juste que je ne pense pas qu'il ait compris la Trinité. Aurait-il compris la cour céleste? Oui, parce que les autres cultures avaient aussi des idées de cour céleste. L'idée de la cour céleste me semble donc plus naturelle étant donné le cadre historique dans lequel il aurait écrit. Au fait, est-il possible que ce soit faux aussi? Je n'étais pas là, je veux dire, je suis vieux mais pas si vieux que ça. Donc ce que je dis c'est, je n'étais pas là, je ne sais pas. Je souhaite donc conserver la Trinité, mais la mettre cependant en veilleuse. Je veux mettre en avant la cour céleste. Mais l'une ou l'autre de ces options sera une option. Pouvons-nous faire cela, en disant que nous ne savons pas, mais que ce sont deux options valables? Celui-ci est négatif, celui-ci est possible mais j'en doute, je pense que c'est trop précis. Au fait, le « nous » nous façonne-t-il? Est-ce « moi » ou est-ce « nous » qui nous façonne? Votre culture façonne-t-elle qui vous êtes? Votre milieu familial façonne-t-il qui vous êtes? Pour citer quelqu'un, faut-il un village pour former une personne? Faut-il un « nous » pour faire un « moi » Ce qui se passe, c'est que votre arrière-plan façonne qui vous êtes. Nous sommes construits relationnellement, c'est ce que je dis. Le « nous » construit-il le « je » Regarde autour. Vous venez tous de régions différentes. Vous venez tous d'horizons différents et chacun vous a façonné d'une manière différente des autres, ce qui est vraiment bien car nous sommes tous uniques en ce sens. Ainsi, le « nous » façonne le « je ». Les êtres humains sont construits pour les relations. Je suppose que c'est le point que je veux faire valoir. Les êtres humains sont-ils construits pour un contexte de « nous » Oui. Nous sommes construits à partir d'un contexte, nous, vers un contexte, nous. Les relations peuvent donc être très importantes pour l'image de Dieu et pour la façonner. L'aspect pouvoir / domination de l'image 49, 46-54, 48. Maintenant, cette question de gouvernement, regardons ceci, l'image de Dieu règne. Faisons l'homme à notre image pour gouverner. Dans l'Ancien Testament, Dieu est le souverain. Maintenant, si je dis « souverain », qu'est-ce que j'entends par « souverain » Dieu est le roi. Dieu règne, il est le grand roi. Permettez-moi simplement de dire que Dieu est le grand roi. Il a mis l'humanité sur terre pour faire quoi? Régner. Devons-nous gouverner à la place de Dieu? Sommes-nous comme, le terme que je veux est, vice-régent. Le président des États-Unis dirige les États-Unis, mais peut-il vraiment tout gouverner? Non. Vous avez donc des gouverneurs dans différents États qui gouvernent. À propos, presque tous les grands royaumes sont établis comme celui-ci, où il y a un grand roi et ensuite des gens qui gouvernent sous ses ordres, qui gouvernent de petites régions sous ses ordres. Donc, ce que vous avez dans ce récit de la création, c'est que Dieu a créé l'humanité à son image pour régner sur les poissons du ciel, les oiseaux de la mer et les créatures qui rampent. Nous sommes en réalité à la place de Dieu régnant sur la création. Nous sommes en un sens de petit, Dieu, régnant sur une partie de sa création. C'est une façon terrible de le dire, mais en voyez-vous l'intérêt? Dieu nous a-t-il confié une partie de son règne pour que nous l'administrions? C'est peut-être une meilleure façon de le dire. Dieu a-t-il abandonné une partie de son règne et nous, en tant que vice-régents, gouvernons au nom du grand roi? Maintenant, comment cela s'établit-il? C'est très intéressant. Les rois du monde antique auraient des représentants qui gouverneraient à leur place. En d'autres termes, vous auriez le grand roi et le grand roi aurait des sous-rois sur diverses régions conquises par le roi. Vos rois auraient donc des représentants et ils gouverneraient à la place du roi. Est-ce que quelqu'un se souvient de Cyrus, de Darius et de ses dirigeants perses? En gros, ils possédaient cet immense royaume et ils gouvernaient par l'intermédiaire des différents satrapes qui régnaient sous eux au nom de Cyrus ou au nom de Darius. Cela arrive dans presque tous les royaumes où il y a un grand roi qui règne sur tout. Ensuite, il y a ces gouverneurs, ces diplomates qui gouverneront sur d'autres choses et c'est comme ça à l'époque assyrienne. Notez que l'accent dans Genèse 1, 26 est mis sur le gouvernement. Maintenant, quelles en sont les implications en termes de sens et de destin? L'humanité est-elle construite pour gouverner? Nous sommes les vice-régents de Dieu représentant son règne sur cette terre. La manière dont nous gouvernons la création est-elle importante? L'humanité est censée régner sur les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. L'humanité est censée régner sur la terre. Dieu nous a confié son règne. Par conséquent, les êtres humains doivent-ils prendre soin, par exemple, de l'environnement? Régnons-nous à la place de Dieu sur la bonne terre de Dieu? La façon dont nous gouvernons en matière d'environnement fait-elle une différence? Par conséquent, les chrétiens devraient-ils s'impliquer dans des efforts de type écologiste? Maintenant, je ne suis pas vraiment un grand défenseur des arbres ou quoi que ce soit du genre. Mais avons-nous une gestion responsable pour régner sur les animaux et sur la terre? Il y a donc une base pour l'environnementalisme? Y a-t-il une base pour l'environnementalisme à l'image de Dieu et cette règle que nous avons et que Dieu nous a confiée à travers le monde? Oui. Vous devez travailler avec ça. Dieu contrôle tout. Mais il a confié une partie du contrôle et des mouvements aux humains. Maintenant, il nous contrôle toujours aussi, mais avec cette capacité de gouverner, nous avons certaines responsabilités que nous devons gouverner à sa place. Par conséquent, nous avons certaines responsabilités quant à la manière dont nous manifestons le règne de Dieu sur cette terre. Il doit refléter la gloire et la bonté de Dieu mais ne pas usurper son pouvoir car il est le grand roi. Il gouverne tout. Monsieur ressemblance physique dans le cadre de l'image 54, 49-61, 47. Maintenant, celui-ci va être le plus difficile à vendre. Ce que je vais essayer de suggérer ici, c'est que nous ressemblons réellement à Dieu physiquement. Maintenant, dites-vous, comment avez-vous obtenu cela? Eh bien, il existe deux termes hébreux, ressemblance et image. Les termes pour ressemblance et image sont tselem et demu. Si vous étudiez ces deux mots tselem et deo, image, et ressemblance, ce sont tous deux des termes très physiques. Ce ne sont pas des termes moraux. Ce sont des termes très physiques. Ainsi, par exemple, permettez-moi de vous donner un exemple tiré de 1 Samuel 6, 5, il est dit que les Philistins fabriquaient des images, tselem ou demu. Ils ont réalisé ces images physiques de rats en or. Maintenant, question, ces rats dorés ressemblaient-ils à des rats? Oui, mais ils étaient en or donc ce n'étaient pas de vrais rats. Mais ils ressemblaient à des rats. Pourriez-vous regarder ce rat en or et dire que c'est un rat mais qu'il est en or? Donc ce que je dis, c'est qu'il y a une ressemblance physique et on le voit ici. Au fait, vous le savez tout. Dans le monde antique en Israël, les Israélites se sont-ils déjà fait des images? Si je vous dis, images, ces images seraient-elles des images physiques? Ont-ils créé des images physiques de Dagon, Béol et Chemoché et de certains des anciens dieux? Ils en ont fait ces images physiques. C'était des images physiques et ensuite les gens se prosternaient devant ces images. Au fait, avec quoi les images ont-elles été faites? On sait de quoi ils sont faits. Oui, quelqu'un a dit, or, c'était les plus riches. De quoi la plupart des gens les fabriquaient-ils? Pierre et bois. Généralement, vous réalisez vos images en pierre et en bois. Mais peu importe, sortons de là. Mais ce que je dis, c'est que les images étaient des choses physiques. Donc ce que j'essaie de suggérer, c'est que ces deux termes ici sont tous deux des termes très physiques. Les « images » étaient généralement quelque chose de très très physique. Donc, ce que je suggère, c'est que physiquement, nous ressemblons à Dieu. Maintenant, permettez-moi d'aller encore plus loin. Supposons que je sois un roi assyrien, vous avez de la chance que je ne le sois pas. Les Assyriens étaient très très cruels. C'étaient les Hitlers du monde antique. Vous aviez le grand roi assyrien et lorsqu'il a conquis un nouveau territoire, devinez ce qu'il a fait. Lorsque le roi assyrien conquérait un nouveau territoire, il érigeait une statue de lui-même. Que signifiait cette statue? Cela signifiait que, moi, le grand roi, ma statue est, disons, à Tsophar ou à Dama, cela signifie donc que je suis roi à Dama et à Tsophar. Ainsi, le roi érigeait une image physique de lui-même en pierre. Cela me rappelle un peu, qui est ce type? Il y avait un gars en Irak qui avait cette grande statue de lui-même. Vous souvenez-vous qu'ils ont démoli l'image de Saddam Hussein? En d'autres termes, l'image signifiait quoi? Je suis le roi de ce territoire. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Dieu fait une image de lui-même et la met sur terre. Est-ce une façon pour Dieu de déclarer sa souveraineté, sa royauté sur la terre? Nous sommes cette image de Dieu. Il nous dépose ici pour régner à sa place et pour qu'il y ait une ressemblance physique. Nous ressemblons à Dieu. De même que le roi assyrien fabrique une statue, une image et la place sur le territoire qu'il gouverne, maintenant Dieu met également son image en nous et nous place sur la terre pour symboliser et mettre en œuvre son règne. Maintenant, permettez-moi d'aller un peu plus loin. Quelqu'un pourrait dire, attendez une minute Hildebrandt, Jésus a dit, Dieu est un esprit et un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous me voyez l'avoir. Alors si Dieu est un esprit et n'a ni chair ni os, comment sommes-nous créés à l'image physique de Dieu? Vous avez dit que vous campiez vraiment sur cette histoire de physique. Mais Dieu est un esprit, il n'a pas été créé, il n'a ni chair ni os. Je veux que tu penses à Jésus. Jésus a-t-il pris une forme humaine? Oui, il l'a fait. Est-il seulement apparu comme un humain ou était-il physiquement humain? C'était un humain. quand Jésus a été tué, est-il vraiment mort en tant qu'être humain? Il est mort. Lorsqu'il revient à la vie après sa mort, Jésus est-il simplement ressuscité en tant qu'esprit ou Jésus est-il ressuscité physiquement? En fait, il monte jusqu'à quel était le nom de ce type. Il dit, et, regarde ça, mets tes doigts ici. Mets tes doigts dans mon côté. C'est moi, j'ai été crucifié. Vous souvenez-vous avoir douté de Thomas? Alors il dit à Thomas. Au fait, après la résurrection, Jésus s'est-il assis et a-t-il mangé avec ses disciples? Oui. Alors Jésus était-il physique après la résurrection? La résurrection était-elle physique? Jésus va-t-il être dans un corps humain pour l'éternité? Jésus est-il ressuscité des morts et est-il vivant pour toujours dans un corps humain? Jésus, dans le futur, et cela fait maintenant quelques milliers d'années, il est toujours dans un corps humain pour l'éternité. Est-il possible que Jésus ait été dans un corps humain ou comme un corps humain avant la création et que nous ayons été créés à l'image du Christ, la physicalité dans laquelle nous avons été créés était l'image du Christ? Par conséquent, Christ peut-il devenir un être humain parce que nous sommes compatibles? Jésus peut-il devenir un chien? Jésus deviendrait-il un chien? Tu sais ce que je dis. Un chien est-il incompatible? Peut-il devenir un être humain? Oui. Il le peut parce qu'il y a là une compatibilité. Donc, ce que je dis, c'est que le Christ, depuis l'éternité, avait une forme humaine, et que nous, en tant qu'êtres humains, sommes créés à cette image. Lorsque Jésus descend, il peut se transformer en être humain. Est-il compatible pour pouvoir l'être pour le reste de l'éternité? Oui, il est compatible avec ça. Cela a-t-il du sens? Je dis donc que nous ressemblons réellement à Dieu. Les termes psalem et demu sont des termes physiques. Ce que je suggère, c'est que nous sommes faits comme Christ. Nous sommes créés à l'image du Christ. Après la chute, avons-nous du mal à être immoraux et pécheurs? Sommes-nous recréés à l'image du Christ? Être comme Christ est-il notre destin? Donc c'est là qu'on va et donc on retourne au jardin dans un certain sens. L'image de Dieu est en nous, elle a été gâchée à cause du péché. Nous redevenons semblables au Christ. Maintenant, nous sommes construits à l'image du Christ, c'est ce que je suggère. Il y a donc compatibilité. Aux implications de l'image de Dieu dans l'humanité 61:48-64:22. Maintenant, je voudrais soulever quelques autres points ici. Il y a certaines implications à cela qui sont vraiment merveilleuses. Regardez vers l'avenir. 1 Jean 3:2 parle de l'image qui se projette dans le futur. Mais nous savons que lorsqu'il, c'est-à-dire Jésus, apparaîtra, nous serons comme lui. Lorsque Jésus apparaîtra, y aura-t-il une transformation dans nos corps? Nous serons comme lui car nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, fait quoi? Se purifie. L'espérance du retour du Christ nous purifie t-elle? Est-ce que nous nous purifions en attendant dans l'espérance du retour du Christ? Connaissez-vous quelqu'un qui a vécu à la lumière de la venue du Christ? Mon père était vieux, je me souviens de lui quand j'étais jeune, allant à la fenêtre et il y allait presque quotidiennement. Il allait à la fenêtre, il regardait par la fenêtre et il disait, « Vous savez, Jésus reviendra peut-être aujourd'hui. » Est-ce que cela a façonné sa vie? Tu ferais mieux de le croire. A-t-il aimé ma mère parce que le Christ reviendrait peut-être aujourd'hui? Il aimait probablement ma mère pour d'autres raisons aussi. Est-ce qu'il aimait ma mère? Oui. Mon père a-t-il essayé d'être le meilleur père possible, et pourquoi? Le Christ reviendra peut-être aujourd'hui et je dois faire face à mon Créateur. Vous avez donc là une très belle chose qui transforme et donne de l'espoir. Ce que j'essaie de suggérer, c'est que l'espoir transforme qui vous êtes. Supposons que ma femme soit CPA maintenant. Supposons que vous deveniez CPA. Si vous commencez à devenir CPA au Gordon College et que vous suivez tous ces cours, votre espoir de devenir CPA façonnera-t-il votre façon d'apprendre et ce que vous apprenez grâce à votre espoir? Vous espérez pouvoir faire quelque chose ou avoir ce genre de vocation ou de carrière. Vous façonnez donc vos études pour y parvenir. L'espoir façonne-t-il qui vous devenez? Ce qu'il dit, c'est que nous avons cet espoir que le Christ reviendra et que lorsque nous le verrons, nous serons comme lui. L'image de Dieu en nous sera renouvelée et nous serons redressés, nous serons purifiés à ses yeux au retour de Jésus. Est-ce un grand espoir? C'est un grand espoir, un jour nous verrons Jésus et il va nous transformer à son image. P. Image chez les autres 64, 23-72, 42. Maintenant, il y a d'autres choses ici aussi. Je pense que le livre de C.S. Lewis, Weight of Glory, traite de cela. Pouvez-vous voir l'image de Dieu chez les autres? Pouvez-vous voir l'image de Dieu chez les personnes que vous n'aimez pas? Sont-ils créés à l'image de Dieu? Y a-t-il de la bonté? La bonté de Dieu est-elle ancrée dans chaque individu d'une manière ou d'une autre? Est-il possible qu'il soit une personne vraiment méchante? Mais sont-ils toujours faits à l'image de Dieu? Je veux en donner deux exemples et je vais venir ici parce que je veux m'éloigner de la Bible sur ces exemples car ils me rappellent de mauvais souvenirs. Il était une fois, j'allais dans un endroit appelé Grand Island High School. Il y avait une fille au lycée de Grand Island qui s'appelait Mablin. Mablin était, je ne sais pas comment dire ça, c'était la fille la plus simple du lycée. C'était comme si tu ne voulais pas t'asseoir ou être à côté d'elle parce que tu obtiendrais tout ce qu'elle a et tu ne veux pas ça. C'est comme des cooties ou quoi que ce soit. Donc tout le monde s'est abstenu de Mablin parce qu'elle fait partie des intouchables. Est-ce que tout le monde à l'école s'est moqué de cette pauvre fille? En fait, c'était tellement pathétique qu'au bout d'un moment, ils ne se sont même plus moqués d'elle. Mais personne ne voulait être près de Mablin. Question, Mablin a-t-elle été créée à l'image de Dieu? Oui. La traiter ainsi, était-ce approprié? J'aurais aimé être plus précis. Je n'étais pas. Je n'ai fait aucune des choses cruelles envers Mablin, mais je n'ai rien fait non plus pour inverser la situation. Qu'aurais-je dû faire en tant que chrétien? Est-il possible que j'aurais dû me lier d'amitié avec elle, lui faire ressentir l'image de Dieu en elle et la faire ressortir? Je n'étais pas assez intelligent pour faire ça quand j'étais jeune et j'en ai honte, c'était mauvais. Nous avons eu une réunion au lycée de Grand Island. C'était plusieurs années plus tard. Kevin Carr, un gars avec qui je suis allé au lycée m'a dit, hey, « Ted, tu te souviens de Mablin? Qui pourrait oublier Mablin? Il n'y avait qu'une seule Mablin à l'école. Mablin est devenue chrétienne. Elle est une sœur en Christ maintenant. » Quand Kevin me l'a dit, j'ai pensé sainte vache. Les chrétiens doivent traiter tout le monde avec dignité et respect. Permettez-moi maintenant de passer à un autre exemple. Il était une fois, ma femme et moi sommes allés à un concert. C'était un concert de Michael Card, c'était un gars d'après la guerre civile, qui chantait des chants bibliques. Nous avons donc eu des billets gratuits parce qu'Anita, une fille qui restait tout le temps chez nous et qui mangeait notre nourriture, vivait essentiellement avec nous. Elle était avec cette WDCX, une station de radio chrétienne. Elle a donc obtenu des billets gratuits. Nous avons pu nous asseoir à la cabine avec tous les privilégiés. C'était donc tout, cette corde rouge et cette section délimitée. Alors nous avons caracolé et elle a soulevé la corde et nous avons pu nous asseoir juste devant. Michael Card donnait un concert ici et il y avait un vieux haut-parleur ici. Ma femme déteste la musique forte et je suis assis devant le haut-parleur. J'aime ça fort parce que je n'entends pas. Quoi qu'il en soit, je suis assis devant l'orateur et je dis que ça va être un super concert. Il est à environ, je parle à 15 pieds de nous. Alors nous sommes assis là et je me dis, mec, ce sont des sièges spéciaux. Chaque fois que je vais à un concert, je suis généralement assis tout au fond et je dois utiliser des jumelles. Donc cette fois, nous sommes juste au-dessus. Donc, je suis assis là, sur les sièges, à peu près là, et tout d'un coup, ce type entre. Il soulève la corde et s'assoit à côté de moi. Je pense, ce type est un gros bonnet, vous savez, ce sont tous des gros bonnets ici, là où nous étions assis. Il enlève ensuite ses chaussures et, avec ses pieds traquants, il pose son pied ici. C'était des sièges de théâtre, il pose un de ses pieds là sur le siège devant lui et un de ses pieds là. Il y a cette dame, ses cheveux sont tout coiffés et elle est vraiment toute parée, et cette dame a les deux pieds qui traquent ce type à environ 6 pouces de son nez dans tous les sens où elle se tourne. Tout le monde se met en route, ça devient un peu bizarre, je n'ai jamais vu ça aussi mal. Quoi qu'il en soit, Anita apparaît alors parce qu'elle sait que le gars n'aurait pas dû être assis là. Alors elle court partout et descend sur le côté. Elle entre et commence à parler au gars. Maintenant, Anita, tu dois savoir que cette fille est dure. Je ne sais pas comment la décrire. Cette fille a vu beaucoup de vie. Je parle de beaucoup de choses importantes. C'est une fille dure. Elle descend, parle au gars. Je ne sais pas ce que le gars lui a dit, mais tout d'un coup, elle a commencé à reculer comme ça et elle s'est éloignée. Je me suis dit, putain de vache, je ne l'avais jamais vu agir ainsi auparavant. Je ne sais pas ce qu'il a dit mais je ne l'ai jamais vu reculer ainsi auparavant. C'est une jeune femme assez agressive. Alors elle revient, s'assoit. Puis je commence à parler au gars et il commence à me raconter son histoire. Il était sur ce tapis de lessive et 40 gars lui ont sauté dessus. Il a une ceinture noire du 3e degré et il vient de faire exploser les 40 gars. Alors je parle avec ce type et ma femme pendant ce temps se penche vers Anita et dit, c'est bon, Ted parle très bien avec des gens comme ça. Alors je pensais, 40 gars, ceinture noire 3e degré. Il s'avère que mon fils et moi travaillons à ce moment-là sur nos ceintures noires. Il est au 3e degré, ça devrait être intéressant et donc il continue de parler. Il fait sortir les ordinateurs de sa tête. Il faisait 20 ordinateurs à la fois. Il n'utilise ni clavier, ni souris, ni quoi que ce soit, ni même la parole. Il les fait tourner hors de sa tête, 20 ordinateurs à la fois. Alors il s'en va et les histoires deviennent de plus en plus étranges. Alors pendant ce temps-là, à l'entracte, que se passe-t-il? Tout le monde s'en va, ils sont tous partis. Je suis resté là et j'ai parlé au gars pendant l'entracte. Ils reviennent, nous nous asseyons et terminons le concert. À la fin du concert, évidemment, est-ce que ce type a des problèmes? Oui. Alors je me suis levé et j'ai dit, je veux ressentir ton pouvoir, parce qu'il me parlait de tout son pouvoir. Alors j'ai dit, je veux ressentir ton pouvoir. Alors ce type me fait un câlin et commence à me serrer. Je réfléchis à ce que je vais faire si ça tourne mal. Je peux prendre soin de moi, je suis un grand garçon. Il a commencé à me serrer et j'ai dit, je veux ressentir ton pouvoir. Alors il commence vraiment à me serrer la main. Puis il a fait une erreur, il a essayé de me relever. Il me relève du sol et son dos sort. Il dit, oh, mon dos, mon dos. D'un seul coup, toute la mythologie de ce fantasme grandiose a disparu. Le pauvre mec s'est fait mal au dos. Je veux dire, je n'ai pas essayé de faire ça. Je vous demande ceci, a-t-il été créé à l'image de Dieu? Aurais-je dû le traiter avec dignité et respect? Oui. Saviez-vous que cette nuit-là, Dieu m'a montré, de manière modeste, ce que je devrais faire de ma vie? Dieu a utilisé ce type pour communiquer sa volonté pour ma vie. Quelle est la volonté de Dieu? Ce type m'a aidé à régler ça. Ce que je veux dire, c'est que je loue Dieu pour ce type. Ce que je dis, c'est d'être prudent, Dieu parle à travers tous les types de personnes. Quelqu'un que je connais maintenant, ils sont tout le temps avec des sans-abri et c'est un peu comme s'ils se promenaient parmi les sans-abri, tous ces sans-abri sont dégueulasses. Vous savez, l'un de ces sans-abri pourrait être Jésus. Il pourrait être un ange pour autant que vous le sachiez. Donc, ce que je dis, c'est que lorsque vous voyez des gens, vous les regardez avec dignité et respect, même s'ils se trouvent dans les difficultés de la vie. Dieu peut utiliser ces personnes pour parler à travers vous et à vous. Ce que je dis, c'est, traiter tout le monde avec honneur et dignité. L'image de Dieu d'ailleurs, est-ce une petite chose ou est-ce une grande chose? C'est une grande idée. Ce que je dis, c'est que l'image devrait nous permettre de nous connecter aux autres au-delà de toutes sortes de frontières, car nous regardons et voyons la gloire de Dieu chez les autres. Et même, au fait, est-il possible qu'une autre personne ne puisse même pas le voir en elle-même? Pouvez-vous faire ressortir cela? C'est notre cadeau. Dieu nous a dit que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous pouvons devenir davantage comme Dieu lorsque nous voyons cette image chez les autres en leur donnant la gloire et la dignité qu'ils n'ont peut-être jamais eue de leur père, de leur mère ou de qui que ce soit. Nous pouvons leur donner la dignité et le respect d'être créés à l'image de Dieu. C'est merveilleux. C'est une chose vraiment importante. Ceci est une grosse affaire. Les gens sont créés à l'image de Dieu, c'est une chose importante. Q arbre de vie 72, 43-77, 32. Maintenant, permettez-moi de passer à un autre sujet que nous souhaitons aborder ici, l'arbre de vie. Essayons de parcourir cela rapidement. Je vais vous dire, vous voulez vous lever. Pourquoi ne pas parcourir les Bibles robiques juste pour vous donner un peu de souffle, les gars? Je veux juste couvrir les deux arbres et nous aurons fini pour la journée. L'arbre de vie, quelle est la fonction de cet arbre de vie dans le jardin d'Éden? Vous avez l'arbre de vie décrit ici. Comment aurait-il su ce qu'était l'arbre de vie? Aurait-il su ce qu'était la mort? Si vous comprenez la mort, alors vous savez que la vie est le contraste avec cela. Et si vous n'aviez jamais vraiment vécu la mort? Est-il possible qu'il y ait eu la mort avant la chute dans le péché? Est-il possible que les animaux soient morts avant le péché, avant la chute? Maintenant, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Je n'ai pas de réponse à ce sujet, mais j'ai eu un professeur qui m'a tourné la tête avec ça et je ne connais toujours pas la réponse. Est-ce possible avant l'automne? Les amibes mangeaient-elles autre chose? Est-ce que les petites créatures, les bactéries mangeaient des choses? Les lions mangeaient-ils des choses avant l'automne? Les lions mangeaient-ils d'autres animaux? Ce que je suggère donc est la suivante, est-il possible qu'il y ait eu une mort animale avant la chute et qu'Adam et Ève savaient ce qu'était la mort parce qu'ils l'avaient vue dans le monde animal alors qu'ils ne l'avaient pas vécu eux-mêmes? Je ne sais pas. Donc de toute façon, gardez cela à l'esprit, c'est peut-être possible. Certaines personnes pensent qu'il y a eu une mort animale avant la chute et c'est ainsi qu'Adam et Ève l'auraient su. Puis, avec la chute, vous obtenez la mort humaine. Oui, aviez-vous une question? L'élève parle, est-ce que tout le monde voit qu'elle adopte une tactique différente? C'est intéressant. Elle dit qu'il aurait connu la poussière, à la poussière tu devrais retourner parce que tu es sorti de la poussière. Mais quand cette poussière est-elle revenue? Quand leur a-t-on dit cela? Plus tard dans le chapitre 3, mais peut-être qu'ils le savaient plus tôt, mais nous devons le projeter en arrière. Pensons maintenant à d'autres choses ici avec cet arbre. Genèse 2, 16 implique-t-il qu'ils pouvaient manger de l'arbre de vie avant la chute? Dans Genèse 2, 16, il est dit, « Et l'Éternel commanda à l'homme, tu es libre de manger de n'importe quel arbre du jardin. Sauf combien, un ou deux. » 1. Vous êtes libre de manger de n'importe quel arbre du jardin, mais vous ne devez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela implique-t-il alors qu'il pourrait réellement manger de l'arbre de vie? Oui. Cela implique qu'il pourrait manger de l'arbre de vie. Le seul arbre qu'il ne pouvait pas manger était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est donc intéressant. À propos, que se passe-t-il lorsqu'ils pêchent? Ils sont expulsés du jardin. Dieu les jette hors du jardin après avoir péché. Au chapitre 3, verset 22, il est dit ceci, « Et l'Éternel dit, cet homme est maintenant devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Il ne doit pas être autorisé à tendre la main, à prendre de l'arbre de vie, à en manger et à vivre éternellement. » Donc Adam et Ève sont expulsés du jardin pour ne pas avoir accès à quel arbre? L'arbre de la vie. Ainsi, l'arbre de vie est retiré de l'humanité à ce stade lorsqu'elle est expulsée du jardin. Maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est Apocalypse 22. Quand la Nouvelle Jérusalem descendra et que les eaux s'éteignent, devinez quel arbre réapparaît dans la Nouvelle Jérusalem. L'arbre de vie réapparaît des deux côtés du fleuve et donne des fruits en 12 saisons. Il y en a 12 donc ça donne des fruits chaque mois de l'année et les feuilles étaient destinées à la guérison des nations. L'arbre de vie est-il toujours là? Quelque part, pas ici. Lorsque la Nouvelle Jérusalem descend, l'arbre de vie est là et nous pouvons y participer. En d'autres termes, l'arbre de vie est toujours là et le livre de l'Apocalypse le contient. À propos, la Bible commence-t-elle par cet arbre de vie, et après la chute, nous sommes retranchés de l'arbre de vie. Vous voyez que le reste de la Bible nous ramène essentiellement à l'arbre de vie. C'est plutôt intéressant. La Bible commence et se termine par cet arbre de vie. R3 vue de l'arbre de vie 77, 33-80, 12. Voici maintenant trois vues de l'arbre de vie. Certaines personnes pensent que l'arbre de vie était une chose magique. Vous grignotez le fruit et vous vivez éternellement. La Bible fait-elle beaucoup de choses avec la magie? Non, en réalité, il y a des miracles dans la Bible. Mais les miracles sont généralement là dans un but précis. Il y a une raison, ce n'est pas juste de la magie. Donc, je pense que cette vue magique est dans les tubes. Certaines personnes pensent qu'il s'agissait plutôt d'aliments santé. En d'autres termes, c'était le type de nourriture parfaite et équilibrée. Si vous mangiez de cet arbre de vie, c'était la combinaison alimentaire parfaite. C'était comme des noix, beaucoup d'oméga-3. Alors mangez beaucoup de noix et vous vivrez éternellement. C'est juste une plaisanterie. Les noix sont bonnes pour vous. Un aliment santé parfait, est-ce que cela semble vraiment être l'aliment santé parfait lorsque vous lisez le contexte de Genesis à ce sujet? Non, encore une fois, cela ne semble pas correct. Voici une suggestion, c'est celle que j'achète et qui me semble intéressante. L'arbre de vie était un sacrement. Autrement dit, en mangeant le fruit, cela ne vous donnait pas la nourriture nécessaire pour vivre éternellement, mais l'arbre de vie était comme un sacrement. Quand je dis sacrement, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le sacrement est la scène du Seigneur, l'Eucharistie. Dans la scène du Seigneur, dans l'Eucharistie, vous prenez une coupe et cette coupe est à moi quoi? C'est mon sang de la nouvelle alliance. Question, est-ce vraiment son sang? Non, vous en buvez, c'est du jus de raisin ou du vin ou j'ai bu du jus de pomme parfois, même du collet d'une fois. Je ne recommande pas le collet car il y a suffisamment de buveurs de collet dans ce monde. Laisse-moi revenir. La coupe représente le sang du Christ. Le cracker, tu casses le cracker, pain sans levain. C'est mon corps, qui a été brisé pour toi, ce genre de choses. Ainsi, le pain représente son corps brisé, le sang de la coupe de jus. Alors il représente quelque chose. Au fait, pouvez-vous violer ces images? Rappelez-vous que dans 1 Corinthiens, il dit, ne mangez pas indignement la scène du Seigneur. Il ne veut pas que les images soient violées. Je me demande donc si l'arbre de vie représente une vie juste et une relation juste avec Dieu et s'il est considéré comme un sacrement. Maintenant, vous avez la vie avec Dieu pour toujours et c'est donc comme un sacrement. Plutôt que la nourriture qui nourrit réellement votre corps pour vivre éternellement, elle est prise de manière sacramentelle. Cela a-t-il du sens? J'aime ça. Cela donne beaucoup de sens à beaucoup de choses. Alors je le prends comme un sacrement. Est-ce arbre de la connaissance du bien et du mal 80, 13-84, 17? L'arbre de la connaissance du bien et du mal est un peu délicat. Comment Adam et Ève sauraient-ils ce qu'était le mal? Si quelqu'un n'a connu que le bien et jamais le mal, comment appelle-t-on ce genre de personne? Béni, non. On aurait effectivement utilisé le terme, naïf. Que allais-tu dire? L'élève parle, ignorant. Je veux donner un meilleur visage à cela. En fait, c'est probablement ce qui m'est passé par la tête aussi, mais je veux utiliser le mot, naïf. Est-ce que naïf est un peu mieux? En d'autres termes, une personne est naïve si elle n'a jamais connu le mal et que vous savez comment ça se passe. Alors, que signifiait le mal pour Adam et Ève avant la chute? Pourquoi Dieu mettrait-il cet arbre dans le jardin? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi a-t-il été mis dans le jardin? J'ai quelques suggestions ici. La première est que je pense que le choix est nécessaire pour être un agent moral. Si un agent moral ne fait jamais de choix, est-il vraiment un agent moral? Voyez-vous l'importance de faire un choix? L'arbre a donc été placé là parce que les êtres humains devaient faire un choix. Est-ce un des problèmes du collège? Est-il possible d'étudier théoriquement toutes sortes de choses à l'université? Est-ce une chose très différente de faire un choix? Choisir quelque chose, c'est très différent. Est-il possible de parler de guerre au Gordon College? Est-il possible de parler théoriquement du meurtre de quelqu'un d'autre au Gordon College? Est-ce très différent pour mon fils d'aller en Afghanistan et de devoir décider s'il va appuyer sur la gâchette pour mettre fin à la vie de quelqu'un? Ce que je dis, c'est que toutes ces histoires universitaires disparaissent lorsqu'il y a une véritable décision de faire quelque chose. Faites attention à ne pas commencer à réfléchir, parce que vous savez gérer les choses théoriquement, vous connaissez la vie et ce que je dis, c'est non. L'université est conçue pour cela et c'est bien, mais il faut savoir que lorsque vous prenez des décisions dans la vraie vie, c'est très différent. Vous en subissez les conséquences, il se passera toutes sortes de choses. Alors faites attention à l'université, ça peut parfois vous monter à la tête et c'est mauvais. Mais en faisant des choix, devez-vous faire de véritables choix pour déterminer votre libre arbitre moral? Oui. En voici une autre qui me semble importante en termes de choix et d'amour. Dieu nous a-t-il créés pour que nous devions l'aimer ou Dieu nous a-t-il donné le choix? Dieu nous a donné le choix. Ce que je dis, c'est, aimeriez-vous épouser quelqu'un qui est forcé de vous épouser et qui n'a pas eu le choix? Ils ont dû t'épouser. Voulez-vous aimer quelqu'un qui choisit de vous aimer? Est-ce que le choix de quelqu'un de choisir de vous aimer, est-ce que cela signifie beaucoup? Oui. Je suppose donc que Dieu dit, je ne vais pas les forcer à m'aimer. Ils peuvent faire ce choix. Vont-ils m'aimer ou pas? Qu'a fait l'humanité? Maintenant, vous dites, je ne veux pas t'aimer. Au fait, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Êtes-vous déjà sorti avec une fille et elle vous a largué? Est-ce que ça fait très mal? Êtes-vous déjà sorti, une fille est sortie avec un mec et le mec la laisse tomber? Qu'est-ce que cela te fait ressentir? Ces rejets vous blessent-ils au plus profond de votre être? Maintenant, en gros, l'homme dit quoi à Dieu? Et, nous ne voulons pas de toi. Nous allons choisir notre propre voie. Question, est-ce que cela fait du mal à Dieu? Au fait, la Bible décrit elle que Dieu a été blessé de la sorte. Oui, et Ésaïe chapitre 1. Ézéchiel est le pire. Dans Ézéchiel 16, Dieu décrit sa propre blessure rejetée par Israël après les avoir aidés, nourris et aimés, et tout ce qu'ils font, c'est lui donner des coups de pied entre les jambes. C'est une sorte de résumé des images là-bas. Le choix et l'amour semblent donc être impliqués. T'es le serpent dit la vérité. Genèse 3:84, 18-88, 40. Le serpent dit-il la vérité? Ce que je vais vous suggérer, c'est que le serpent dit la vérité. Maintenant, vous dites, attendez une minute, Ril de Brent. Lisons ceci. Il est dit, et le serpent, Genèse chapitre 3, verset 1 et suivant, or, le serpent était plus rusé qu'aucun des animaux sauvages que l'Éternel avait créés. Le mot, rusé, peut être traduit par, astucieux. Je préfère, astucieux. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne devais manger d'aucun arbre du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin mais Dieu a dit qu'il ne faut pas manger des fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous ne devez pas y toucher sinon vous mourrez. Vous ne mourrez sûrement pas, dit le serpent. Car Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Question, quand ils l'ont mangé, est-ce que ça dit que leurs yeux étaient ouverts? Oui. Satan dit-il la vérité? Oui, le serpent dit la vérité. Permettez-moi de terminer ceci, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Dieu dit-il au chapitre 3, verset 22, l'homme est maintenant devenu comme l'un de nous. Vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme Dieu et vous connaîtrez le bien et le mal. Dieu dit, l'homme est maintenant devenu comme nous, connaissant le bien et le mal. Satan dit-il la vérité? Laissez-moi juste vous raconter une histoire, il était une fois ma fille qui jouait au basket en sixième, elle jouait avec cette autre fille. Cette autre fille mentait tout le temps. Non, sérieusement, elle a menti à tout le monde sur des choses qui n'avaient même pas d'importance. Est-ce que tout le monde à l'école savait que cette fille était une menteuse? Tout le monde le savait. Question, a-t-elle déjà trompé quelqu'un ou est-ce que tout le monde s'attendait à ce qu'elle mente? Tout le monde attendait cela d'elle. La seule personne qu'elle a vraiment trompée, c'était qui? Ceux. Elle pensait que tout le monde avait menti. Tout le monde savait ce qu'elle faisait. Satan est-il toujours un menteur? Satan cite-t-il les Écritures? Quand Satan poursuit Jésus lors de la tentation dans le désert, est-ce que Satan cite les Écritures? Il emmène Christ au sommet et dit, « Jetez-vous en bas, car le psaume dit, ses anges vous soutiendront. » Satan cite l'Écriture. Les Écritures sont-elles vraies? Oui, Satan dit-il la vérité. Maintenant, laissez-moi vous révéler un secret sur la morora. Quand vous distribuez du morora, vous le mettez dans un bon hamburger. Ce hamburger est-il un bon hamburger que vous pourriez manger? 99% sont de bons hamburgers. Mais quel est le problème? C'est un poison à 1%, le rat le mange et qu'est-ce qu'il attrape? Le 1%. Les 99% restants sont des hamburgers bons et sains. Oui. Ce que je dis, c'est qu'une personne qui dit la vérité, dit la vérité, dit la vérité et avec un petit mensonge, est-ce celle-là qui trompe les gens? Avec Satan, il dit la vérité, la vérité, la vérité. Question, au milieu de la vérité, a-t-il intégré un méchant mensonge qui les détruira? Donc ce que je dis, c'est soyez prudents. Satan est-il un ange de lumière ou est-il Dark Vador qui est toujours maléfique? Satan est-il un ange de lumière? Est-ce qu'il trompe les gens en leur disant la vérité, mais au milieu de cette vérité se trouve ce mensonge? Donc ce que je dis, c'est que Satan est vraiment subtil, astucieux et rusé. Il est très méchant parce qu'il intègre le mal dans des choses comme la vérité. Il intègre le mal dans des choses comme la justice, la bonté et toutes ces choses, mais à l'intérieur il y a cette chose qui est dévastatrice. Ainsi, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan intervient de cette manière positive. Je vais vous dire ce que nous ferons la prochaine fois, comment Adam et Ève sont-ils devenus davantage semblables à Dieu dans leur expérience du mal. Alors comment ont-ils été détruits et maudits par cela? Nous verrons donc cela la prochaine fois. Alors faites attention et on se retrouve jeudi. Il s'agit du docteur Ted Hildebrandt qui enseigne la littérature historique et la théologie de l'Ancien Testament. Conférence numéro 6 sur la généalogie non égale à la chronologie, l'image de Dieu et les deux arbres du Jardin d'Éden. Transcrit par Elana Notaro. Brut édité par Ted Hildebrandt -2.